RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Face à l'immense défi de trouver la juste place de l'humanité sur cette planète, nous avons besoin d'espace pour interroger nos actions et nos organisations. Le festival Agir pour le vivant est de cela. Il réunit chaque année des intellectuels, des militants environnementaux et des acteurs de terrain à Arles en France, à Yaoundé au Cameroun et à Medellin en Colombie. C'est pas du vent reçoit à chaque édition des participants de ce riche festival d'idées et de débats en partenariat avec AFD Campus. Aujourd'hui, nous vous emmenons donc à Medellin où vient de se dérouler la 3e édition du festival grâce au reportage de Raphaël Morand. Mais avant cela, nous allons nous intéresser quelques instants à l'avenir de la vanille, cette épice que nous aimons tous et qui est en ce moment au cœur de toutes les attentions.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Ces notes douces, chaleureuses et gourmandes font frétiller nos papilles. Tout le monde, ou presque, aime la vanille. Mais savez-vous que la vanille est une orchidée fragile qui a besoin de conditions météorologiques particulières pour se développer ? Et ces conditions sont aujourd'hui bouleversées par le changement climatique. Alors allons-nous devoir renoncer à la vanille ? C'est pour éviter cela qu'une soixantaine de scientifiques d'une vingtaine de pays se sont réunis la semaine dernière sur l'île de la Réunion. Ils ont répondu à l'invitation du CIRAD, le Centre de la Recherche Agronomique pour le Développement, et de l'Université de la Réunion. Bonjour Michel Grisoni.
Bonjour.
Vous êtes chercheur sur les ressources génétiques végétales en milieu tropical au CIRAD. Vous êtes basé à Madagascar. Alors vous étiez justement à cette réunion qui a rappelé à quel point l'avenir de la vanille est menacé par le changement climatique.
Oui, tout à fait. On a eu cette réunion donc la semaine dernière pour évoquer différents sujets en rapport avec la vanille qui menace un peu la filière et au premier rang desquels c'était le changement climatique, en particulier le réchauffement, donc les températures plus élevées qui mettent en péril la production, et puis l'allongement des périodes de sécheresse aussi, qui est le deuxième facteur de changement qui peut rendre certaines zones de culture impropres à la culture dans les années à venir.
Alors pourquoi la hausse des températures est néfaste pour la vanille ?
Un effet qu'on a observé sur le Mexique, et le premier pays qui a été véritablement concerné par ce sujet-là, c'est que lorsque la température est très élevée, on parle de températures qui peuvent dépasser les 40-45 degrés, juste après la pollinisation des fleurs, ça rend la fécondation impossible et donc les fruits chutent. Donc selon les années, depuis maintenant on a un recul d'une quinzaine d'années, selon les années, les pertes peuvent être entre 10 et 70% de la récolte espérée, donc c'est très préjudiciable à la production dans les zones traditionnelles de culture de la vanille au Mexique actuellement.
Et est-ce qu'il y a globalement, à l'échelle mondiale, une baisse de la production ?
Alors, c'est pas sensible au niveau mondial, parce que bon, Madagascar représente 80% de la production mondiale, mais on commence à sentir à Madagascar ces effets du changement climatique. L'année dernière, dans les zones un peu plus sèches, donc on a vu une sécheresse qui s'est beaucoup prolongée et donc qui a impacté la production là au stade de début de développement du fruit. On a vu aussi, par exemple, à La Réunion, du fait des températures d'hiver trop élevées, une intensité de floraison qui est réduite. Donc il y a des premiers indices dans la zone océan Indien, qui est la principale zone de production de vanille, d'un effet du réchauffement des températures.
Alors la solution, c'est de diversifier les variétés cultivées. Je vous propose d'aller justement à La Réunion, où avec François Porcheron, nous avions visité la plus grande collection de vanilliers au monde, qui est abritée par le CIRAD.
Bonjour, je suis Déborah Chopin, technicienne agricole au CIRAD de Saint-Pierre et je m'occupe de l'entretien des collections de vanilliers du CIRAD.
Donc, ce n'est pas rien cette collection parce que c'est la plus grande collection de vanilliers au monde.
Oui, la plus grande et la plus complète.
Alors avant de rentrer, il faut se laver les mains.
Oui, il faut se laver les mains parce que les vanilliers sont sensibles à certains virus.
On se lave les mains, gel hydroalcoolique et on rentre.
Du coup, on est dans une ombrière qui a un sas avec une toile insecte-proof. Donc la toile insecte-proof, c'est pour limiter le nombre de ravageurs qui peuvent entrer dans l'ombrière et donc abîmer les vanillés. Et ensuite, au-dessus de la toile insecte-proof, on a la toile d'ombrage 60% parce que les vanillés ont besoin d'ombrage pour pousser. Les vanillés, c'est une liane orchidée. Dans le genre vanilla, il existe plus d'une centaine d'espèces, mais seulement 3 espèces sont cultivées pour leurs arômes. Donc en premier, on a la vanilla planifolia, donc celle qu'on connaît et qu'on met dans nos gâteaux, qui représente plus de 90% de la production mondiale. Ensuite, on a la vanilla tahitensis, qui est plutôt cultivée en Polynésie française et qui a des notes plus anisées au niveau de la gousse. Et ensuite, on a la vanilla pompona, qui est plutôt cultivée aux Antilles, qui est connue sous le nom de vanillon, et dont les feuilles et les tiges sont plus grosses que la vanilla planifolia, et aussi les gousses. Donc toute cette partie-là, c'est les pompona, donc grosses feuilles, grosses tiges, avec des grosses gousses qui viennent d'Amérique du coup. Ensuite, ici, on a la vanilla baiana, qui a des tiges plus fines et des petites feuilles. Celle-ci, elle vient du Brésil. Et elle n'est pas intéressante pour les arômes, mais la fleur intéresse certaines parfumeries. Les fleurs de vanille, il faut savoir qu'elles restent ouvertes qu'une seule journée. Et du coup, il faut la féconder dans la matinée, sinon l'après-midi, la fleur n'est plus assez fraîche. Et la gousse a moins de chances de tenir.
Et normalement, j'imagine que ce sont les insectes qui fécondent les fleurs.
Alors, en Amérique, il y a des pollinisateurs comme les abeilles mellipones. Mais leur action sur les fécondations des fleurs de vanille, c'est très minime. Par exemple, elles peuvent féconder une fleur par-ci, par-là, mais il n'y aura pas toutes les fleurs fécondées. Et du coup, pour avoir vraiment beaucoup de gousses et beaucoup de production, il faut pratiquer la fécondation artificielle.
Donc si l'homme n'intervenait pas, il y aurait une production de vanille extrêmement faible.
C'est ça. La production de vanille serait extrêmement faible parce que du coup, les pollinisateurs naturels qui ne sont pas ici à La Réunion déjà et qui même là-bas ont une action minime sur la fécondation.
Mais dans le monde entier, la plupart des vanillés sont fécondés à la main.
Oui, presque la totalité de la production de vanille dans le monde est fécondée à la main.
Et ça veut dire il faut prendre, pour expliquer simplement à la radio.
Comment féconder ?
Oui.
Alors, en fait, en haut du pistil, il y a la poche de pollen tout en haut. Si on soulève, il y a la poche de pollen. Et juste en dessous de la poche de pollen, il y a le rostellum. Et c'est le rostellum, la membrane qui empêche la fécondation. Du coup, il faudra soulever le rostellum et pousser la poche de pollen en dessous pour que le pollen entre en contact avec le pistil et que ça fasse gonfler l'ovaire qui va donner la gousse.
Ah, c'est délicat. Qui a inventé cette manière de féconder les fleurs de vanille ?
C'est Edmond Albus qui a découvert le procédé de fécondation de la fleur de vanille en 1841. Et Edmond Albus, c'était un jeune esclave réunionnais.
Merci Edmond, alors.
Oui. Du coup, ben, je vous emmenais voir un des hybrides que le Cirad a fait. Donc celui-ci. C'est un hybride entre vanilla planifolia, donc celle que nous on connaît, et la vanilla pompona, qui a comme caractère intéressant la résistance à la fusariose. Mais du coup, celle-là, elle fait des très grandes gousses de 30 cm et de peut-être 4 cm de large. Les gens se tournent vers elle parce qu'elle est originale, c'est une grande vanille avec des grandes feuilles, des grosses gousses, mais elle intéresse pas les producteurs parce que c'est pas l'image qu'on se fait de la vanille quand on se dit qu'on va acheter de la vanille, on va pas acheter une grosse banane comme ça. Et les gens aussi peuvent penser que c'est des OGM alors que c'est hybridé à la main. Je prends le pollen sur un plant de vanille, je l'emmène sur un autre et tout est fait à la main, il n'y a pas d'OGM.
Donc en gros, c'est une super vanille, mais comme elle ne correspond pas à notre imaginaire, elle a du mal à être acceptée par les producteurs.
C'est ça.
Ah oui.
Du coup, on se trouve proche des vanillés à fil. Donc, c'est des vanillés qui, au premier abord, ont l'air morts. Parce qu'ils n'ont pas de feuilles. Mais ça ne veut pas dire que c'est mort. C'est parce que ces vanillés-là, avec l'évolution, ils ont perdu leurs feuilles pour résister à la sécheresse. Et nous, on les garde ici en ombrière parce que, déjà pour l'amélioration variétale, on pourrait mettre ce gène de sécheresse chez notre vanilla planifolia à nous pour développer par exemple la filière vanillée sur l'ouest de La Réunion. Et on la garde aussi parce que dans leur zone d'origine, elles sont menacées déjà de une par la déforestation et de deux parce que certaines communautés trouvent que ça a des vertus aphrodisiaques, ce qui est faux.
Et leur zone d'origine, c'est Madagascar.
Oui, ce sont des vanilliers endémiques de la région, de la zone océan Indien, donc Madagascar, les Comores, Mayotte, l'Afrique.
Michel Grisoni, je rappelle que vous êtes chercheur sur les ressources génétiques végétales en milieu tropical au CIRAD. Vous travaillez à Madagascar. On l'a entendu dans ce reportage, il y a beaucoup de variétés de vanillés et c'est sur cette diversité qu'il faut miser pour garantir un avenir à la vanille ?
En effet, la diversité naturelle, c'est une ressource très importante puisque les millions d'années d'évolution des vanilliers, en fait, à travers le monde, ont généré une certaine diversité qui est souvent menacée dans les zones où ces plantes existent naturellement, donc il faut protéger. Et puis, en ce qui concerne les vanilliers cultivés, la reproduction végétative par bouturage fait qu'il y a un peu une érosion de cette diversité et il faut parvenir à l'enrichir par des méthodes donc d'amélioration génétique ou de sélection à partir de variétés naturelles.
Mais est-ce que la variété qui représente 80% de la consommation de vanille, vous le disiez tout à l'heure, qui est produite à Madagascar, doit évoluer ?
Ben, il faut la diversifier puisque toute la production mondiale de vanille, donc de cette espèce spécifique de la vanille principalement consommée qu'on appelle vanilla planifolia, la diversité originelle se trouve dans la zone d'origine au Mexique. Cette diversité a été beaucoup érodée et il faut donc créer des variétés qui présentent certaines caractéristiques de meilleure production, de meilleure résistance aux maladies en particulier, de meilleure résistance à des températures plus élevées. Et donc ça, il faut, voilà, en combinant différentes variétés ou éventuellement en croisant avec d'autres espèces, ça permet de générer des vanillés qui auront le même potentiel aromatique, voire potentiel aromatique meilleur, mais une meilleure capacité d'adaptation à des conditions de culture différentes.
Mais il faut accompagner les cultivateurs.
Alors, on peut essayer aussi d'améliorer les méthodes de culture pour diminuer, donc en ce qui concerne la sécheresse, on peut imaginer de développer des systèmes d'irrigation. Actuellement, la vanille est très rarement irriguée puisqu'elle est cultivée dans des zones suffisamment arrosées. Mais on peut imaginer des systèmes d'irrigation. Mais en ce qui concerne la température, c'est très difficile de réduire la température au champ. Différentes expérimentations qui ont été menées, donc notamment au Mexique, où ils sont confrontés à ce problème depuis pas mal de temps, chose qui intervient, qui arrive, c'est qu'il y a un déplacement en fait des zones de production, donc pas forcément les mêmes cultivateurs, parce qu'ils n'ont pas forcément accès à un foncier plus frais, mais il y a des zones de culture en fait qui évoluent dans les différents pays, souvent en remontant un peu en altitude pour avoir moins de chaleur.
Donc même si les cultivateurs doivent s'adapter, vous nous rassurez, nous aurons encore de la vanille pendant plusieurs décennies ?
Oui, je pense que j'en mettrai même ma main au feu. Tout le monde aime beaucoup la vanille et il restera des zones où la culture de la vanille sera possible.
Merci Michel Grisoni pour cette bonne nouvelle.
Merci.
Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida.
Tu suelo es una oración y es un canto de la vida.
Cantando, cantando yo viviré.
Colombia, tierra querida.
Cantando, cantando yo viviré.
Colombia, tierra querida.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Nous vous emmenons en Colombie aujourd'hui à l'occasion de la 3e édition du festival Agir pour le vivant qui a réuni pendant 10 jours des intellectuels, des militants environnementaux et des acteurs de terrain pour réfléchir à la juste place de l'humanité sur cette planète. Le festival a débuté dans la région d'Antioquia, au nord-ouest du pays, par 2 jours de conversations et d'ateliers pour réfléchir aux enjeux de l'eau à partir des grands bassins versants colombien. Car la Colombie fait partie des pays qui abritent une biodiversité exceptionnelle, notamment aux abords du fleuve Magdalena. Avec ses affluents, ses marais et ses lagunes, ce fleuve de 1500 km forme un refuge unique pour diverses espèces comme les crocodiles, les singes, les toucans et les lamantins. Mais la déforestation menace leur habitat. Notre envoyé spécial, Raphaël Morand, s'est rendu à Puerto Berrio, sur les rives de ce fleuve, à la rencontre de celles et de ceux qui se mobilisent pour préserver ces zones humides.
C'est au milieu d'un concert de chants d'oiseaux que nous retrouvons Jason Naranjo. Conseiller municipal de Puerto Berrio et défenseur de l'environnement, il est fier de visiter le parc La Samaria, une réserve naturelle de 27 hectares, ouverte il y a quelques mois grâce à la mutuelle colombienne Comfama, sur des terrains autrefois occupés par des éleveurs bovins. Le but de ce parc, reboiser les lieux pour protéger le lac marécageux de La Samaria, l'un des derniers îlots de végétation tropicale dans les environs.
Notre territoire est constitué de plusieurs zones humides. C'est très joli. Mais pour les grands propriétaires terriens qui pratiquent l'élevage extensif, c'est une perte financière. Cette pratique représente vraiment la plus grande menace pour ces écosystèmes, car les propriétaires cherchent à sécher ces endroits pour gagner en productivité et pour gagner de l'espace de pâturage pour leur bétail.
Puerto Berrio est en effet entouré de collines de pâturage qui s'étendent à perte de vue. Nous sommes dans le département d'Antioquia, une région de Colombie qui a bâti sa richesse sur l'élevage extensif au détriment de l'équilibre entre forêts et zones humides. Jason Naranjo est lui-même issu d'une famille d'éleveurs bovins.
Moi, j'ai grandi à la campagne, tout près d'un de ces lacs marécageux, qu'on appelle les ciénagas. Et mon père s'est rendu compte que lorsqu'il coupait les arbres, cela changeait les dynamiques de l'eau, à tel point que le manque d'ombre et d'eau a fini par faire baisser la valeur de la ferme et la productivité du bétail. Et c'est à partir de cette crise de l'eau que nous avons commencé à nous investir pour l'environnement, pour nettoyer les marais, pour repeupler les lacs en poissons. Nous voulions tout faire pour que l'eau revienne et pour maintenir la productivité de notre exploitation.
La perte de surface forestière dans les environs est en effet visible sur les données satellitaires. Ces 20 dernières années, la commune de Puerto Berrio a perdu 27% de son couvert végétal humide. Selon les chiffres de Global Forest Watch, les conséquences sont nombreuses. Dans le centre de Puerto Berrio, sur les terrasses des restaurants, on déguste aussi bien la traditionnelle bandeja paisa, un plat régional composé de plusieurs viandes, que des poissons frais du fleuve. Cette petite ville vit de l'élevage, mais aussi de la pêche. Nous sommes sur les rives du Magdalena, un fleuve tropical qui traverse la Colombie du sud au nord, alimenté par un réseau de lagunes, de marais et d'affluents. Nous rencontrons Omar Osa, natif de Puerto Berrio. Il est ingénieur environnemental et il se bat pour protéger les zones humides de la région.
En Puerto Berrio, nous sommes deux ou trois, sont comme quatre. Mais aussi, je veux dire,
il y a plusieurs lacs et marécages à Puerto Berrio. Il y en a aussi sur l'autre rive du fleuve Magdalena. Je me souviens qu'étant jeune, je me rendais souvent en barque de pêcheurs au lac des Barbacoas, à 7 heures au nord de Puerto Berrio, pour repeindre des fermes. Et j'adorais aller là-bas, car on y voit des caïmans, des tortues, des lamantins, des capybaras, des troupeaux de tapirs. C'est vraiment une autre planète. C'est magnifique. Mais ces espaces doivent rester en bonne santé car dès que les sols manquent d'eau, la surface du lac baisse, le niveau d'oxygène aussi. Il faut préserver les sources d'eau du fleuve, ses affluents et les marais qui l'entourent qui font sa bonne santé.
Vous êtes inquiet pour la santé du fleuve Magdalena et son système de zones humides ?
L'équilibre du fleuve est perturbé au niveau de ses rives. car les éleveurs ont défriché les rives pour faire paître leur bétail à un mètre du bord seulement. Sans arbres, le sol change, il perd sa perméabilité et sa capacité à absorber l'eau. Donc quand le fleuve déborde en saison des pluies, ses bords sont grignotés et des îles se forment. En 2011, il a beaucoup plu. Le fleuve a débordé et a inondé le lac marécageux de Chiqueros, à 20 km de la ville. Le fleuve a ramené des restes organiques, des plantes qui ont colmaté le lac. Il est passé de plus de 2 mètres de profondeur à 1 mètre, voire 40 cm.
Y ya quedó de un metro, en el verano se queda de 40 centímetros.
Il y a quelques années, Omar Ossa a notamment tiré la sonnette d'alarme face à l'assèchement de l'un des 5 marais de Puerto Berrio, une zone humide pourtant indispensable pour reconstituer les stocks de pêche qui font vivre de nombreuses familles de Puerto Berrio.
Hay muchas ciénegas que por el tema de
L'expansion de l'élevage transforme la nature des sols. En temps normal, ces sols filtrent l'eau et maintiennent l'humidité des marécages en saison sèche. Ces marécages sont de véritables pépinières où les poissons se reproduisent. Ensuite, les femelles remontent vers le fleuve et donnent naissance à des milliers d'alevins qui grandissent et qui, à un certain âge, retournent vers le lac marécageux pour se reproduire. Ils gardent ce chemin en mémoire. Ces zones humides sont vraiment des berceaux pour la vie animale. Il faut conserver leur niveau d'eau. Parfois, on les nettoie. Et cela doit rester un espace pour la reproduction des poissons.
Sur le port, les restaurants rivalisent en musique pour attirer les clients. Tous proposent principalement du poisson ramené par les pêcheurs du fleuve Magdalena. Mais plus de 100 espèces d'eau douce de la région sont menacées par la surpêche. En 1985 déjà, l'écrivain prix Nobel de littérature, Gabriel García Márquez, racontait la raréfaction de certaines espèces dans son roman « L'amour au temps du choléra ». Depuis quelques années, une interdiction temporaire de pêche a été décrétée.
Un tiempo en que...
À une certaine époque, de nombreux pêcheurs travaillaient avec des filets à mailles serrées. Donc ils pêchaient tous les poissons, grands, petits et moyens. Il y a 10-12 ans, la quantité de poissons a décliné. L'interdiction temporaire de pêche a donc été mise en place. Cela dure d'avril à mai, pas de pêche durant un mois. Et on invite les pêcheurs à nettoyer le lac marécageux pour retirer certaines plantes et maintenir les niveaux d'eau. Pour ce travail, ils sont payés pendant 2 semaines.
L'instauration de esta veda dos veces al año a lo.
Et cette régulation de la pêche, est-ce qu'elle a porté ses fruits?
Sí, claro, sí, eso sí funciona, por supuesto. Claro, ya la dorada casi no se ve.
Oui, le poisson chat est revenu, mais il est encore en danger. Mais d'autres espèces ont quasiment disparu, comme le poisson dragon, la dorade, le poisson chat tigré et le capaz. Tous ceux-ci ont quasiment disparu. Et les alectis se font rares.
Si la suspension de la pêche jugule un petit peu le déclin des espèces de poissons dans le fleuve, la déforestation due à l'élevage, en revanche, augmente encore. Et la digestion des bovins émet du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Qu'en pensent les éleveurs de la région? Nous posons la question à Luis Javier Saldarriaga. Il dirige le comité régional des éleveurs de Puerto Berrio et nous reçoit souriant dans son bureau situé à l'arrière d'une boutique de produits vétérinaires pour le bétail. L'éleveur assure que sa profession n'est pas directement responsable de la déforestation.
Il y a 15 ou 20 ans, les éleveurs ont pris conscience que sans protection des ressources naturelles, l'efficacité de la production serait affectée. Les éleveurs ne sont pas responsables du changement climatique ni de la dégradation de l'environnement dans les zones rurales. Pour nous, c'est très clair que la déforestation est le résultat de l'action des trafiquants de bois, de l'activité minière clandestine, des narcotrafiquants. Et ensuite, les éleveurs récupèrent ces terres déjà déboisées. Mais nous ne sommes pas la cause de la dégradation de l'environnement dans notre région. Je dirais même que les éleveurs ont la possibilité d'opérer les changements environnementaux qui garantiront le bien-être des générations futures.
De quelle forme précisément
Mais de quelle manière est-ce que vous vous associez à ces projets de reforestation dans la région ?
L'élevage est suivi de près par de nombreuses institutions qui savent que nous pouvons séquestrer du carbone. Ici, le comité régional des éleveurs a signé l'accord national zéro déforestation.
Pourtant, le secteur de l'élevage continue de croître.
L'élevage, en termes de tête de bétail, continue de croître, lentement, mais il croît. Et pas au détriment de l'environnement. Les éleveurs ont des techniques de production qui les rendent plus efficaces. Sur une même surface, ils mettent plus d'animaux grâce aux rotations des prés et à une bonne gestion des fourrages. Cela permet d'avoir plus d'aliments pour les bovins sans augmenter la surface de pâturage.
En ce début du mois de mai, Puerto Berrio est en pleine effervescence. Des chars défilent, décorés de fleurs et d'animaux, dans les rues écrasées par le soleil équatorial. La ville célèbre un concours de beauté, une tradition colombienne. On en compte des milliers dans le pays, souvent liés à des fêtes agricoles. On y élit alors la reine du sucre ou du café, par exemple. Aujourd'hui, c'est la reine de l'écologie qui sera couronnée. Une manière de rendre hommage à cette nature généreuse qui fait vivre ce petit port du fleuve Magdalena. Mais sous ces airs festifs et les bonnes volontés affichées de protéger l'environnement, Puerto Berrio s'inscrit tout de même dans une histoire violente. Deux défenseurs de l'environnement nous confient avoir été menacés de mort après avoir dénoncé les méfaits de l'élevage extensif. Par ailleurs, des groupes armés font encore sentir leur présence dans les environs. Veronica Maecha, chargée des questions environnementales et agricoles à la mairie de Puerto Berrio, nous explique que des groupes mafieux contrôlent certaines exploitations minières illégales, avec une conséquence pour l'environnement, la pollution au mercure.
Nous avons un gros défi à Puerto Berrio. L'exploitation minière dans les environs ne répond pas aux exigences environnementales. Nous avons des mines d'or et des mines de sable pour les matériaux de construction. Certaines sont légales, d'autres pas, notamment sur la commune de Minas del Vapor. Là-bas, il y a un ruisseau pollué. On peut le voir à l'œil nu. On ne peut plus utiliser l'eau du ruisseau. Or, il se jette dans le fleuve Magdalena où l'on pêche. Cela nous inquiète beaucoup car certains poissons peuvent être contaminés au mercure.
Vous parlez de mines clandestines. Sont-elles contrôlées par ces groupes armés encore présents dans la région ?
Malheureusement, oui. C'est une problématique qu'on retrouve dans toute la Colombie. C'est un phénomène qui s'est aggravé l'an dernier. Sur la rivière San Bartolo, par exemple, les mines illégales se sont multipliées et selon nos informations, des groupes criminels sont derrière cette activité.
Alors, des conversations de paix ont lieu au niveau national avec des groupes armés. Est-ce que ça peut avoir un impact positif ici, à Puerto Berrio ?
Oui, nous allons instaurer des groupes de travail dans notre ville, car certains de ces groupes opèrent en milieu urbain. Le gouvernement veut instaurer des dialogues de paix et certains auront lieu au niveau de la municipalité.
La construction récente d'une autoroute qui relie Puerto Berrio à Medellín, la capitale économique de la Colombie, en 3 heures, suscite ici l'espoir de faire du port une destination écotouristique afin de protéger les zones humides tout en créant de l'activité économique.
Comme nous manquons d'argent dans notre ville, nous avons cherché à faire des alliances pour faire venir le tourisme. La réserve La Samaria s'inscrit dans cet objectif. Puerto Berrio commence à être plus attractif pour les gens. L'autre atout de notre municipalité, ce sont nos forêts primaires, avec une faune et une flore importantes. Et Puerto Berrio, c'est aussi l'une des zones du pays où il y a le plus de caïmans au kilomètre carré. On les trouve dans les zones humides. Et bien entendu, c'est un élément attractif. Ce parc gratuit nous a permis de faire émerger la conscience environnementale à travers des parcours écologiques pour observer la faune et la flore.
La canoa de Bareque,
prolonger ce reportage, Raphaël Morand a rencontré le principal financeur du parc La Samaria que l'on vient de vous faire visiter. Il s'agit de la mutuelle colombienne Confama, une entreprise originale qui réinvestit une partie de ses profits dans des parcs naturels pour préserver la diversité et ouvrir des parcours éducatifs afin de sensibiliser le grand public à la protection de l'environnement. Stéphania Fernandez-Garcia est responsable du développement durable chez Confama.
Confama a un projet éducatif et culturel, et même si nous sommes une entreprise à visée d'abord sociale, en fin de compte, toutes les questions sociales ont un effet sur l'environnement, sur la nature. Nous nous considérons donc comme faisant partie de l'écosystème et nous sommes engagés dans toutes les stratégies de régénération. Nous voulons aller au-delà du concept de durabilité pour laisser les territoires en meilleur état que nous les avons trouvés, en particulier dans la région dans laquelle nous nous trouvons. Parce que nous sommes à Medellín, dans le département d'Antioquia, en Colombie, le pays qui possède la plus grande biodiversité au kilomètre carré. Donc si des entreprises comme Confama, qui sont une plateforme de transformation pour les entreprises et les personnes, ne promeuvent pas ce type de conversation, qui d'autre le fera? C'est pourquoi nous nous percevons également comme un pont, pour lier les deux points que nous unissons. Pour nous, le festival Agir pour le vivant est comme le pont qui nous aide à concentrer les discussions, à penser, à réfléchir et à générer des changements aussi. Ainsi, il ne s'agit pas d'un événement qui se produit en une semaine, mais d'un long processus.
Alors si on entre un peu dans le détail du contenu du festival, quels sont les principaux axes thématiques? On parle par exemple de sentir et penser le vivant, ça veut dire quoi?
Oui, cette année nous avons quatre axes thématiques. Il y en a un qui est transversal à l'ensemble de l'événement, c'est celui des récits du Sud et des alliances avec la Terre. Nous voulons que depuis Medellín en Colombie, on sente ce point de vue du Sud global et les différences de perspective avec le Nord global et comment les visions différentes sur le changement climatique peuvent mener à des réalisations similaires et comment nous pouvons unifier ces conversations. L'autre très bel axe thématique que nous avons est celui de l'eau, des forêts et de la biodiversité. Nous sommes très intéressés par ce sujet parce qu'en Colombie, comme je l'ai dit, nous avons une grande biodiversité et nous voulons qu'elle soit au centre de la conversation. Nous voulons que les gens sentent qu'ils font partie de la nature et qu'ils comprennent qu'elle n'est pas seulement une ressource économique, mais un allié et que c'est de cette manière que nous devons nous comporter avec elle. Ensuite, nous avons des conversations autour du concept de One Health, une seule santé, parce que tout est connecté. Ce terme, One Health, nous invite à comprendre l'équilibre entre l'écosystème, les animaux et les humains, et que nous ne sommes pas déconnectés. En d'autres termes, si l'écosystème est malade, les animaux seront malades, et nous le serons aussi, car 70% de nos maladies sont d'origine animale. Nous ne pouvons donc pas nous voiler la face et dire que nous sommes seuls, les humains, super puissants à avoir les choses comme nous les voulons, alors qu'en fin de compte, nous faisons partie d'un système très complexe. Et le dernier axe du festival, c'est celui d'une nouvelle organisation sociale et économique qui nous invite à repenser le concept de croissance. Il ne s'agit pas seulement de croître, mais de transformer, de renforcer ou de consolider ce que nous sommes déjà. Comment faire pour qu'un arbre ait plus de valeur lorsqu'il est planté que lorsqu'il est coupé? Comment pouvons-nous changer ces perspectives économiques et sociales pour que ces concepts de rentabilité puissent être alignés sur cette conversation et que nous puissions tous commencer à générer de la valeur en faveur de la nature?
Cette année, vous avez choisi d'organiser la première partie du festival à Puerto Berrio, une ville située sur les rives du fleuve Magdalena. Alors pourquoi avoir choisi cet endroit en particulier?
Cette année, nous avons voulu faire cette rencontre dans la région de Puerto Berrio, car c'est ici que nous avons le nouveau parc de Confama, la zone humide de Samaria, et parce que c'est un écosystème proche du fleuve Magdalena. Les zones humides sont un écosystème stratégique et beaucoup ont été détruites. Environ 60% ont disparu dans le monde. Or, les zones humides sont vitales pour la conservation de la biodiversité et nous sommes très intéressés par la possibilité de travailler avec les communautés locales. local. Vous m'avez demandé au début pourquoi une entreprise comme Confama s'engage pour la nature. Vous constaterez que les zones humides de Puerto Berrio sont au cœur de la communauté. Avec ce parc, ce que nous voulons, c'est que les gens tombent amoureux de ce qu'ils ont autour d'eux, qu'ils tombent amoureux de la zone humide. Nous l'avons conçu sans les attractions auxquelles les gens sont habitués, comme des piscines. Nous proposons des activités d'observation des oiseaux pour renouer avec la zone humide, prendre des bains de forêt. C'est donc une forme de divertissement qui sert à la fois d'éducation et pour encourager cette culture de l'union que nous devons avoir avec la nature.
Le parc de la zone humide de La Samaria n'est pas le seul parc que gère la mutuelle Comfama. Pourquoi est-ce que votre entreprise a choisi d'ouvrir plusieurs parcs naturels en Colombie ?
Comme nous sommes une mutuelle, nous avons dans notre cahier des charges la question des loisirs. Notre but à Confama est l'expansion et la consolidation de la classe moyenne et travailleuse d'Antioquia pour la rendre libre, productive, heureuse et consciente. Ce que nous cherchons à travers ces parcs, c'est justement cela, en prenant en compte la perspective du festival Agir pour le vivant. Nous avons un projet visant à transformer tous nos parcs en forêt, c'est-à-dire à les intégrer à l'écosystème pour les redonner à la nature et que les visiteurs aient conscience de cette nature. Dans la zone humide du parc La Samaria, nous voulons mener des activités de restauration, de compensation, des activités éducatives et culturelles pour retrouver ce lien perdu avec la nature. À l'heure actuelle, nous gérons donc plus de 13 parcs et nous sommes déjà en train de mettre en place tout un processus pour qu'ils s'orientent tous vers ce système de forêt interactive. Nous allons donc avoir des zones que nous allons restaurer, puis laisser l'écosystème se régénérer. Et nous voulons avoir d'autres zones pédagogiques où les gens apprendront à connaître les sols, l'importance des champignons, des oiseaux, des micro-organismes, comment tout s'assemble, un peu comme dans le film Avatar, pour que les gens soient enthousiastes et touchés et qu'ils sentent qu'ils peuvent avoir cette connexion avec la nature. En termes de superficie, ce parc n'est peut-être pas gigantesque, mais l'important, c'est l'impact que cela va avoir sur les personnes qui visitent nos parcs. Pour nous aider à donner cette éducation et cette culture, pour mettre le vivant au cœur de notre préoccupation.
Merci beaucoup, Stéphania Fernandez, d'avoir répondu aux questions de Radio France Internationale.
C'est pas du vent sur RFI. Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Nous poursuivons notre découverte de la troisième édition du festival Agir pour le vivant en Colombie avec notre envoyé spécial Raphaël Morand.
Nadine Machicou, merci beaucoup de donner un petit peu de votre temps ici en Colombie, à Medellín, à Radio France Internationale. Vous êtes universitaire camerounaise de l'université de Yaoundé 2 et on vous a invité ici au festival Agir pour le vivant qui réunit des intellectuels et des militants pour penser l'écologie, notre rapport à la terre, au vivant en général, dans un contexte de crise environnementale. Alors vous échangez cette semaine avec des penseurs et des militants sud-américains à propos de la crise écologique et sociale. Vous dites qu'il y a des fils, des lianes, c'est le mot que vous avez employé, des points communs entre ce que vit l'Amérique latine et ce que vit l'Afrique aussi en matière de crise écologique, sociale et politique. Quels points communs vous avez remarqué en voyageant ici ou dans vos recherches entre ces deux continents en ce qui concerne cette crise du vivant, ces problématiques sociales et environnementales?
D'abord, merci de me permettre de partager l'émerveillement que j'ai ressenti en venant ici pour ce festival. En tant qu'universitaire du Sud, venir ici, c'était d'abord questionner la probabilité ou la non-évidence, en fait, de ce que veut dire être du Sud. Parce que souvent, la crise planétaire est pensée à partir de ce fil, ou l'idée que les Suds globaux, en général, que le Sud global, que les Suds seraient en fait confrontés dans les mêmes formes ou dans les dimensions à peu près proches à cette crise-là. Ce qui est vrai parce que de l'Amérique latine à l'Afrique, l'ampleur de la crise du vivant est liée à la fois à ce que ce sont des espaces qui ont été et qui sont toujours très intensivement exposés à des processus d'exploitation, à des processus de prédation des ressources naturelles, et que ces processus de prédation très intensive sont aussi allés de pair avec des dispositifs politiques de dépossession, où souvent les sociétés n'ont pas été en capacité elles-mêmes de faire valoir les intérêts et de se préserver, de se conserver. Donc la solidarité, le fil que nous tenons d'ici à l'Afrique est celui-là, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à des crises qui sont des crises multiformes, c'est à la fois des crises sociales, c'est des crises écologiques. On sait que ici et là, nous avons quasiment atteint des limites, et qu'en même temps, ces deux espaces-là sont considérés aussi un peu comme des réservoirs, comme des solutions planétaires, comme des lieux où vont se construire à la fois des réponses, mais aussi se reconstruire des imaginaires. Et j'aime bien la formule de repeupler les situations, que c'est vraiment à partir des Suds que on peut repeupler, on peut remettre en fait du sens dans ce monde qui est aussi un peu en perte de sens.
Vous parlez de repeupler donc les imaginaires. Ici, en Amérique latine, on parle beaucoup de décoloniser les esprits. C'est un concept qui circule beaucoup depuis plusieurs années dans les milieux universitaires, intellectuels, qui s'applique au champ de l'écologie aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette notion de décolonisation des esprits? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que ça peut être utile aussi en Afrique pour penser des solutions, pour imaginer un nouveau rapport au vivant? En quoi est-ce que cette notion-là, qui a été développée par des penseurs latino-américains, vous interpelle?
Elle est interpellative là aussi parce que les espaces dont nous parlons, qui ne sont pas seulement des espaces géopolitiques, quand on parle de Sud global, souvent on fait référence à cet espace géopolitique, mais qui est en fait l'espace des pays émergents, construit dans une confrontation avec le monde occidental. L'idée, c'est déjà de voir à l'intérieur de cet espace des lignes de faille, et une des lignes de faille, une des lignes de fracture, c'est la question coloniale, c'est la faille coloniale, en l'occurrence... Dans cette expérience que nous partageons de l'Afrique à l'Amérique latine de la colonisation, il y a, comme je le disais, de la dépossession. Et cette dépossession n'est pas seulement la dépossession d'espace physique, c'est-à-dire que l'entreprise coloniale va de pair avec une transplantation d'un système économique, d'un système politique, mais aussi, en fait, d'une transplantation des mécanismes de représentation de soi, des manières de se penser, de se voir et de se représenter le monde. En cela, la décolonisation de la pensée se veut une proposition. Vous avez raison de dire que bon, elle s'est développée en Amérique latine, mais en même temps, il y a eu des propositions décoloniales qui sont très anciennes. Je pense notamment à Frantz Fanon depuis 1961, qui déjà appelait à repenser la condition humaine comme une condition extrêmement actuelle à partir de ces lignes de faille-là. Donc, la pensée décoloniale, c'est ça au fond qui est intéressant. C'est une pensée qui est née au cœur, en creux des processus de domination. C'est dans les sociétés exposées, frappées par la domination, notamment la domination coloniale, mais aussi ce sont des espaces où les mécanismes de pensée, les schémas, les épistémés, les régimes de vérité ont été marqués, ont été, je dirais pas contaminés, mais ont été fabriqués dans cette logique de dépossession. Or, décoloniser, en l'occurrence la pensée, c'est, disons, revisiter souvent des épistémologies pour certaines qui ont été attaquées dans ce processus de colonisation, qui ont été déclassées, délégitimées, etc. C'est de les revisiter. Ça peut être dans le cas des pays d'Amérique latine. On le voit avec le travail de Arturo, notamment Escobar, mais aussi d'autres collègues autour de l'agroécologie féministe. C'est une pensée qui est extrêmement fleurie, qui est abondante, qui est puissante et qui repose tout simplement à la question de comment confronte-t-on dans des espaces qui sont situés dans des territoires et qui sont eux-mêmes exposés, ont été exposés à la destruction, à la prédation, comment confronte-t-on par la pensée, par les imaginaires, par des catégories nouvelles, ce qui nous arrive et comment est-ce qu'on peut reconstruire. Donc je trouve qu'il y a dans ces espaces du Sud un potentiel des épistémologies de la réparation, de la conservation, de la réhabilitation qui sont extrêmement puissants. Et je crois que c'était aussi l'intérêt de cette conversation lors de ce festival Agir pour le vivant.
C'est effectivement l'un des axes du festival Agir pour le vivant, faire entendre des voix du Sud global, mettre en avant des systèmes alternatifs, différents à la pensée occidentale, à l'extractivisme, au productivisme. Quels sont ces savoirs, ces cosmovisions, ces traditions, ces héritages que les peuples du Sud peuvent mettre en avant? Vous en avez cité certains durant la conversation que vous avez eue avec le philosophe Arturo Escobar.
Alors, je pourrais prendre quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de sociétés africaines, mais je suis sûre que l'Amérique latine est extrêmement riche, et extrêmement riche du fait en particulier du développement de ces épistémologies dans les peuples, chez les peuples autochtones. Il y a eu un travail très intensif de production qui s'est fait, mais côté Afrique, je peux prendre un exemple, la philosophie Ubuntu, qui est aussi en fait une philosophie à la fois de la solidarité et des destins intriqués. Cette intrication des destins, quand on dit Ubuntu, en fait, on renvoie à cette idée que je suis parce que vous êtes et que vous êtes parce que je suis et que nous sommes collectivement. Donc, ces épistémologies sont des épistémologies du lien, de la relationnalité. Ce sont des lianes, au fond, qui réhabilitent la possibilité de confronter le sens même de la pensée économique, qui est une pensée de l'homo economicus fondée sur l'intérêt, qui est un intérêt, ou en tout cas une rationalité, qui est une rationalité fondamentalement capitalocène et anthropocène. Et cette rationalité-là, lorsque nous la confrontons à d'autres types d'épistémés, on voit bien qu'on peut intégrer à la fois l'idée qu'on peut vivre avec le vivant, on peut vivre avec l'autre, on peut vivre avec ce qui nous entoure, sans le détruire, en le conservant. Pourquoi est-ce que c'est possible? C'est parce que, eh bien, dans ces épistémologies, il va y avoir un statut. Le statut des choses, le statut des êtres, le corps, ce que Marx appelait le corps non organique de l'humanité, le prolongement non organique de l'humanité, il est revêtu d'un statut, d'une dignité, d'une respectabilité que l'on ne retrouvera pas nécessairement dans les épistémologies classiques.
Et voilà quelques-uns des thèmes, des sujets passionnants qui sont discutés ici dans le cadre Agir pour le vivant en Colombie. Nadine Machicou, merci beaucoup d'avoir partagé avec les éditeurs et auditrices de RFI votre pensée et ce qu'elle peut avoir de commun avec les réflexions qui émergent ici en Amérique latine. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à Raphaël Morand pour ce reportage réalisé par François Porcheron. La prochaine édition du festival Agir pour le vivant aura lieu à Arles, dans le sud de la France, du 26 août au 1er septembre. Merci à Caroline Fillette pour la préparation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à partager nos podcasts sur l'application Pure Radio et à nous suivre sur les réseaux sociaux où nous pouvons dialoguer. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.